quand je parlais à des gens de la France et que je leur disais bah je viens de la France quoi, tout simplement, et ils me disaient ah France ou Paris, après ils disaient ouais Louis Vuitton ou Chanel ou et en vrai c'est ce qui revenait tout le temps tout le temps. Il y avait ça, il y avait Zidane.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement ?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best. Tain, 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 tain.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleurs trucs avec les meilleurs invités. Je suis Cyrus.
Et oui, bienvenue à tous dans cet épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Du meilleur français au monde. On s'explique un petit peu avec ce titre un petit peu très patriote à première vue.
Bien sûr, warning.
Warning. On va essayer de discuter ensemble de la personne qui représente le mieux la France à l'étranger, le meilleur VRP du pays. En gros, voilà, la personne dont on est le plus fier en tant que Français et de son rayonnement dans le monde.
Mais pas représenté dans le sens, genre,
pas la personne
pas
qui
genre,
porte
ah,
le
c'est le
Marcel.
Français typique.
Voilà, ouais. Ah, il râle bien, c'est un super Français.
Voilà, pas ça.
Donc voilà, je suis Tom, évidemment.
Enchanté, Tom.
Mais Cyrus, qui on reçoit aujourd'hui pour parler de ça avec nous ?
Eh bien, aujourd'hui, on reçoit Mima la Prima. Donc Mima qui... Bonjour Mima.
Hola.
Hola. Donc Mima qui participe au podcast Fromage et qui va lancer sa chaîne YouTube en espagnol. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mima, en plus, elle est colombienne. Et du coup, maintenant, elle vit en France et elle va nous donner un petit peu un angle différent de ce que nous, Français, on peut percevoir.
Je vais vous casser.
On part sur une bonne ambiance.
Et on reçoit également pour en parler Hugo Décrypte.
Bonjour, bonsoir, salut.
Hugo de la
chaîne. Il a couvert tous les fuseaux horaires
ouais,
en même temps.
On sait jamais, voilà.
Hugo de la chaîne YouTube Hugo Décrypte et également du podcast Fromage.
Voilà. Mais 100% français. Enfin, pas 100% français d'ailleurs, franco-britannique, mais je me sens plus français donc il y aura pas de regard nouveau avec moi sur la France.
Mais dis-moi, Tom, est-ce que ce serait pas l'heure d'un petit édito ? Que dis-je ? Un éditum ?
11 jours. Ça fait 11 jours.
Que tu t'es pas branlé ?
Non, non. J'ai dit jour, pas minute.
Ok, pardon,
bien écouter, s'il te plaît.
Excuse-moi, Tom.
11 jours. Ça fait 11 jours qu'on peut se coucher chaque soir avec un sentiment d'accomplissement, même si on n'a rien branlé de la journée, parce qu'on est champion du monde de foot. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, hein, cette deuxième étoile. Alors bien sûr, hein, ça a rendu des millions de Français heureux, fiers de leur pays et qui ont pu descendre foutre le bordel dans la rue sans même se faire taper par Alexandre Benalia. C'est déjà pas mal. Mais ça, c'est pas le plus important. Parce que non, hein, gagner cette Coupe du Monde, ça a eu beaucoup plus de conséquences. Bah déjà, on peut parler de Mbappé, hein, qui grâce à ses exploits a mis du respect sur la France, mais qui en a surtout mis sur le prénom Kylian. Et ça, clairement, c'était pas gagné. Ensuite, ça a totalement redistribué les cartes niveau style. Hein. Parce que sérieux, moi, la dernière fois que j'ai vu autant de gens porter un maillot de foot premier degré, c'était dans un clip de PNL. C'est beau, putain. Et puis l'enceinte de Kimpembe, quoi. Le vrai 12e homme de ce mondial. Il y a encore un mois, si vous étiez posé sur la plage à côté d'un groupe de roots qui faisait cracher du Danakil sur leur petite enceinte portative, bah vous n'auriez eu qu'une seule envie, hein, les étrangler avec leur bolasse. Et vous avez bien raison. Alors qu'aujourd'hui, en voyant ce sound system nomade, hein, viendront à vous les images de Pogba qui chante et tape sur sa glacière, de Rami qui se frise la moustache, ou de N'Golo Kanté qui sourit. Des images d'amour, quoi. Des visions qui vous pousseront à prendre ces mêmes hippies dans les bras et à grimper main dans la main sur leur slackline. Mais bon, le grand gagnant de ce mondial, c'est quand même Denis Brognard, hein, le présentateur de la Coupe du Monde. Non mais le mec est passé d'un duel sur l'épreuve des poteaux entre Didier et Patricia à danser la Pog Dance en duplex avec Paul Pogba le soir du titre. Best promotion ever. Enfin, en tout cas, moi j'ai rarement été aussi fier et heureux d'être français que ces 11 derniers jours. Et du coup, bah, j'avais envie de vous poser cette question à vous aussi, chers invités. C'est à quelle occasion que vous êtes senti le plus content et fier d'être ces Francs, Hugo ?
Le jour où je me suis le plus senti fier d'être français, alors... Ça fait un peu cliché parce que je parle d'actualité sur ma chaîne et tout, mais j'ai peut-être envie de dire quand même après les attentats, notamment après les attentats du 7 janvier, Charlie Hebdo, etc., où il y avait eu du coup ce grand rassemblement et bah des, je sais pas combien on était, on devait être des millions quand même, je pense, dans la rue,
ouais.
À se rassembler, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce moment-là, plus d'ailleurs que le week-end dernier, où je me suis vraiment senti fier d'être français et fier de, bah, du rassemblement qu'on avait fait, quoi. Donc c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et pendant longtemps, j'avais eu ce truc qui était resté en tête. Et ouais, clairement, pour moi, c'était ce moment-là. Ouais.
Cyrus ?
Moi, j'allais répondre à la même chose. Juste après Charlie Hebdo, donc tout le mouvement Je suis Charlie, c'est vrai que c'était ouf de voir tous ces gens qui sortaient dans la rue pour dire que, genre, non, en fait, non, ça, c'est pas acceptable. Et... genre bah même si je suis pas forcément pour le journal ou même si je kiffe le journal, enfin peu importe, tout le monde sortait pour dire peu importe si vous êtes d'accord ou non avec le journal, on ne tue pas des gens pour des dessins, quoi. Et j'ai trouvé ça fort.
Mima, c'est des événements que vous avez suivis, tu étais encore en Colombie à l'époque des attentats, en
oui,
France.
Bien sûr, ça a été mondial. On a suivi hashtag Je suis Charlie et tout ce qui vient avec. Mais après, j'ai envie de dire que, enfin, pour changer un peu l'ambiance qui est un peu sombre en ce moment, c'est juste que j'ai envie de dire pendant la Coupe du Monde, effectivement, je sais pas pourquoi, j'ai senti que j'étais la sœur de tous les Français, même si j'ai aucun lien avec la France, mais juste de voir les Français qui étaient aussi heureux et comme bah, j'ai mon copain qui est français, de le voir aussi heureux aussi grâce à cette Coupe du Monde, bah, je me sentais carrément un peu française.
Alors ton copain par contre c'est... Est-ce qu'on peut avoir la précision?
Gros spoiler, c'est moi.
Oui. Ok.
Ça fait donc deux coupes autour de la table. Du coup, ça t'a un peu consolé l'élimination de la Colombie?
un peu en vrai. Non, mais en vrai, la Colombie, elle était grave mauvaise. Donc,
donc voilà.
Ouais, j'étais grave derrière la France.
Avant de venir vivre à Paris, en tant que Colombienne, t'avais quelle image de la France et des Français?
La France a toujours été la représentante de cette valeur de liberté, de voir les humains comme tous des égaux. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, j'étais dans un lycée français et on a étudié tous les littéraires les plus gros, enfin français et tout. Et du coup, j'avais déjà cette idée de la France comme étant vraiment avancée dans ces questions de l'humanité, de lutter pour ses valeurs, oui, droits de l'homme et tout. Et c'est vrai que c'est un truc général. Enfin, tous les gens à l'extérieur, ils voient la France comme une représentante du progrès, quoi, progrès social. Donc c'est pour ça. C'était ma vision. Après, les Français...
c'est quoi les clichés?
Les Français, c'est trop différent. Enfin, nous, on croyait avant qu'ils puaient.
Ok, right in the film.
Mais c'est un vrai truc. Enfin, moi alors, quand elle m'a dit ça, je pensais qu'elle se foutait de ma gueule et que c'était un petit truc.
Vrai.
Et alors, déjà, bah, tu peux peut-être expliquer après en Colombie, mais même des youtubeurs mexicains, enfin, une youtubeuse mexicaine que j'ai rencontrée m'a dit la même chose, m'a dit que c'est un vrai truc.
Oui.
En Amérique du Sud, ils pensent qu'on pue, mais je...
Mais ça c'est de ma faute, les gars. Enfin, ça, je suis désolé, non mais...
Cuba 92, quand t'avais...
Ouais, non mais vraiment, ça, je... Mais à coup de pas, quoi.
Ah ouais, mais ça vient d'où, ce truc? Moi, j'étais pas du tout au courant de...
Ouais. Bah moi, oui, pardon. Après, analyse un peu, je pense. Je pense que c'est, en fait, que les touristes, ils vont l'été à Paris, et que en fait, y a, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui puent l'été, donc bon. Dans le métro,
peut-être
surtout.
Ils prennent le métro beaucoup.
Oui, là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le métro.
Après, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, hein, dans le métro, on sent pas très bon.
Pour vous, c'est quoi les domaines dans le monde dans lesquels la France est la meilleure? C'est-à-dire vraiment les trucs où c'est notre domaine, c'est ce truc-là pour lequel on est connu et c'est ce truc-là dans lequel on est fort, Cyrus?
Bah, j'ai envie de te citer le dernier meilleur podcast qui était sur la meilleure cuisine du monde. Et il me semble que c'est la France qui a gagné.
Un placement de produit partout.
Il me semble que la gastronomie française est quand même difficile à égaler, tu vois.
Et tu penses pas que justement, on en a aussi parlé dans le podcast, avec l'émergence de beaucoup d'autres cuisines, comme la japonaise, l'italienne, peut-être qu'on est un peu moins fort qu'il y a 50, 60 ans, et qu'au final, ce savoir-faire français, est-ce qu'il est pas en train un petit peu de...
C'est ce dont on discutait, c'est-à-dire que je pense que de toute façon, rien que tu prends le vin, et les fromages, c'est bon, mais KO tout le monde. Fin du débat, tu vois. Le vin et les desserts, tu vois. Enfin, c'est ce que disait Guillaume, c'est que genre, il y a combat, et puis ensuite, bim, tu rajoutes les desserts, et fin du game, quoi.
Moi, j'ai envie de rebondir ce que tu viens de dire.
Vas-y.
Parce que par exemple, un des trucs qui me manque le plus ici, c'est les fruits.
Ah.
C'est vrai qu'en France, il n'y a pas du tout de fruits. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi exactement un fruit? Tu peux le décrire?
C'est de la viande en moins bien, je crois. Bon, on en importe beaucoup, mais c'est vrai que potentiellement, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des fruits. Il y en a beaucoup en Colombie, ça.
Il y en a tellement. Mais c'est la température.
C'est
de
moins cher aussi,
quoi.
Je crois. Hein? Genre, c'est moins cher, c'est plus accessible peut-être.
Ouais,
hein.
Il y a partout en plus.
Ouais.
Donc voilà, c'est la saveur des fruits.
Les gars, on peut acheter des fruits quand même.
et par exemple, le fromage, ça fait pas l'unanimité partout.
Oui, mais en
le
vrai, je comprends pas le truc des fruits là. parce que chez moi, j'ai une corbeille de fruits. Enfin, je veux dire.
Non, mais vous avez la base, quoi. Le banane, pomme.
Non, c'est pas vrai. Là, il y a des nectarines à foison, des pêches.
Des pêches plates.
Il y a même des pêches plates, voilà. C'est...
Non, mais il y a plein de fruits que.
Qu'on n'a pas.
C'est vrai que bah, pour prendre sa défense, je pense qu'on a quand même pas mal de fruits effectivement en France, mais c'est juste qu'en Colombie il y a plein de fruits que tu ne vois jamais en France parce que c'est personne n'a l'idée de manger ces trucs-là qui sont des fruits que t'as des fruits plus exotiques quoi. Mais
et en fait, c'est la truc qui est à la base de notre petit déj. Donc je mangeais avant tous les jours et là je suis arrivé, je mange plus.
Ah ça c'est bien ça, c'est bien. Ouais. Ça.
C'est quoi pour toi Hugo les domaines où on est bon?
Pour moi tout ce qui concerne le luxe. Tout simplement, et je pense que, enfin, je l'ai beaucoup vu cette année. Alors, pas moi personnellement, hein, vraiment la France, parce que sinon c'est pas ça. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup vu cette année. Et quand je parlais à des gens de la France, et que je leur disais, je viens de la France, quoi, tout simplement, et ils me disaient, France ou Paris, après ils disaient, ouais, Louis Vuitton ou Chanel, ou. Et en vrai, c'est ce qui revenait tout le temps, tout le temps. Il y avait ça, il y avait Zidane. Donc, mais vraiment, c'était pas un cliché un peu de. C'était vraiment un truc qui revenait.
Qui est le luxe du football au final. Donc, ça se rejoint.
Voilà. Et même, tu vois, quand j'allais. En fait, partout dans le monde où j'allais, donc typiquement, notamment en Asie où ils sont en fait très portés sur la France et sur ce luxe français, bah les enseignes françaises c'est partout et t'as vraiment ce truc. Même sur eux, t'as dû le voir au Japon quand même, sur toutes les marques françaises de luxe qui sont présentes. Et je pense du coup que c'est ce qu'on fait le mieux dans le sens où ça, en termes d'image de la France, c'est
non, ce mais tu vas à Los Angeles, ils ont une rue qui est genre leur 5e avenue à New York, tu vois, genre ça s'appelle Rodeo Drive et genre c'est. Plein c'est d'enseignes françaises quoi. Si c'est pas français, c'est italien en fait, au niveau du luxe.
Et du coup, pour moi, c'est ça en fait. Ça dépasse même souvent en fait, c'est tout con, mais quand je parlais de Paris, ce genre de truc dépassé, c'était parler de Louis Vuitton et tout, il parlait pas de la Tour Eiffel, tu vois ce que je veux dire ? Mais... ce genre de.
Je me permets de rebondir là-dessus, Hugo.
C'est beau.
Que de rebonds dans cette émission.
Que de rebonds.
Mais c'est un trampoline, ce n'est plus un podcast.
et je me permets de te dire, en fait, c'est pas, je pense que c'est pas que le luxe. Je pense que c'est même l'idée générale d'excellence qui est français. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu me fais penser à quelque chose qui existe surtout pour notre pays et pas forcément pour d'autres, c'est le concept de French Touch. Je voulais en parler avec vous, qui à la base, évidemment, est né avec la musique électronique française, l'émergence dans les années 90, des groupes comme Daft Punk, comme Cassius, même
Cyrus,
comme Phoenix.
Attendez le moment
ça.
Où t'allais prononcer le mot Daft Punk.
C'est clair, je regardais tes lèvres.
Non, et c'est vrai qu'au final, je me rends pas trop compte si nous, on l'entend beaucoup parce qu'on est français ou si c'est quelque chose de très présent dans le monde, mais il y a que pour la France que le mot, l'exception française, la French Touch, existe. Pour vous, ça veut dire quoi la French Touch ?
Bah, alors moi, j'avoue, je pensais que c'était que musical.
Bah, on sait aussi dans d'autres domaines comme la technologie et tout ça, on parle vraiment de l'excellence, l'expertise française.
Ok, d'accord. Je pense que ça rejoint effectivement ce que disait Hugo. Je pense que ça rejoint le fait que tu vois, genre quand t'es aux États-Unis et que tu vas dire voilà ou un je ne sais quoi, ce genre de truc, c'est très sophistiqué en fait. Genre, et je pense que c'est lié aussi à notre éducation, notre système éducatif en fait. Qui est genre vachement, il y a beaucoup d'excellence aussi, etc. Notre manière de noter, etc. Machin, le coup des dissertes, genre tu vois, genre comment dire, sur une question dans d'autres pays, on va t'apprendre à dire oui, non, machin. En France, on va t'apprendre à genre à la fin, on saura pas si c'est oui ou c'est non, mais tu vas pondre un truc intéressant de 4 pages, tu vois, minimum. Ouais. Et je pense que tout ça fait que le français est vu comme quelqu'un de très sophistiqué, de absolument pas superficiel, de très, tu vois, genre, qui aime philosopher. Tu vois, la philosophie a une grosse place aussi importante en France, tu vois, genre avec des grands penseurs de philosophie, philosophie des Lumières, etc., machin. Et donc le français, il est vu comme ça, il est vu avec son petit café, en train de repenser le monde, etc., machin. C'est pas un homme d'action, le français, c'est un homme de réflexion.
Ouais. T'es d'accord Mima avec ce qu'il dit, c'est
oui,
l'image.
Non, je regardais, je disais oui avec ma tête tout le temps. Non, en fait, oui, à l'extérieur, enfin à l'étranger, les Français sont vus comme des gens stylés entre guillemets. Enfin oui.
Allez.
mais ça, comment dire, ça comprend aussi le fait que vous soyez un peu hautain entre guillemets, même si c'est pas vrai. Mais c'est juste que vous pensez beaucoup, et c'est pour ça que comment dire, vous réfléchissez autant que vous remettez vous-même en question. Et vous arrivez à faire des trucs bons.
En fait, on est chiant, non? On doit être chiant.
Mais c'est pour ça que vous faites des trucs bien. Vous faites des trucs stylés et avec la French Touch, comme tu disais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre du coup l'image de la France et ce qui peut être véhiculé par des marques et tout, et l'image des gens? Enfin, je sais pas comment dire, mais je suis pas certain que les Français en tant que tels aient une très bonne image. Enfin, j'arrive pas à... Tu vois, il y a ce côté... Enfin...
Oui, c'est vrai que ce gars dont j'ai décrit là, le mec qui prend un café et qui repense le monde, etc. Ouais. Finalement, c'est une sorte de bobo parisien qui va à Saint-Germain-en-Laye. Enfin, tu vois, genre, c'est très spécifique, tu vois.
Saint-Germain-des-Prés, non?
Saint-Germain-des-Prés.
ou en lait aussi, il peut y aller.
Il pourrait.
On connaît pas, on sait pas où il habite.
Oui. Un nouveau cliché. On vient d'inventer un nouveau cliché. Le mec de Saint-Germain-en-Laye.
Non, et tu vois, genre, c'est pas représentatif effectivement de ce qu'est la France en général. C'est comment le reste du monde perçoit peut-être les Français, mais c'est pas la vérité, tu vois.
Ou alors, c'est est-ce que en fait t'es pas très rapidement, est-ce qu'en fait c'est juste que t'as cette image là et quand t'arrives en France, tu réalises que les Français sont pas du tout ce qu'on pense qu'ils sont.
Comme le Paris Syndrome.
Comme le. Ouais, un peu.
Comme
ça,
le syndrome de Paris.
Ouais, exactement. Tu peux expliquer.
Alors j'explique rapidement ce que c'est le syndrome de Paris. C'est en fait ça touche notamment les Japonais. C'est les Japonais qui arrivent à Paris qui sont tellement genre choqués et tellement genre tu sais genre c'est tellement pas ce qu'ils attendaient de Paris.
Choqués déçus.
Non mais vraiment c'est choqués déçus.
C'est tellement après le RER ils se retrouvent en mode putain.
Mec t'arrives à Charles de Gaulle, tu prends le RER B, je pense déjà tu t'es en plein direct dans le bain et en fait ça les choque tellement qu'ils vont à l'hôpital et genre ils ont des grands problèmes de santé, genre c'est quoi les
symptômes. En gros il y a vraiment des trucs bizarres, j'ai regardé sur Wikipédia, ouais, des sortes d'hallucinations, des sortes de mini dépression, enfin des trucs vraiment bizarres liés au fait à ces décalages qu'ils avaient entre le truc d'Amélie Poulain ou je sais pas quoi et la réalité qu'ils ont à Paris et où effectivement les gens sont pas tout à fait pareils et peut-être la ville aussi quoi donc
mais ouais. Est-ce que je peux dire un truc?
Vas-y, non. Vas-y. Bien sûr. Mima, c'est le podcast de tout le monde. Je t'en prie.
Non, parce que je pense que je l'ai eu, le syndrome de Paris. Parce que j'ai eu une période de mini dépression à cause de la ville.
Mais c'est vrai.
Attends,
mais
t'es sûr que c'est pas quand t'as commencé à sortir avec Hugo?
Non, mais en vrai, parle-en, t'as quand même eu un gros décalage entre. Mais c'est le parfait exemple de, entre ce que t'avais en tête de la France et ce que t'as eu en arrivant.
Oui. Mais c'est juste qu'il y a des codes sociaux tellement différents par rapport à la Colombie que quand je suis arrivée, c'était vraiment le choc total. Parce que juste, juste avec le simple fait d'aborder une conversation, ici, ça se fait d'une manière différente. Et je crois que vous vous rendez pas compte, mais en Colombie, c'est. Je sais pas comment dire, c'est sans réfléchir et tu peux dire n'importe quoi.
C'est plus spontané, plus direct.
Oui, plus spontané. Là, vous êtes. Enfin, comme tu disais, vous êtes pas du tout superficiel. Et du coup, il y a toujours un truc derrière et. Et je sais pas, c'est plus difficile.
Est-ce que c'est pas juste parce qu'on le fait pas avec de la coke?
Non. Premier cliché sur la Colombie.
Non,
premier du monde,
je tiens à dire que nous, on fabrique la coke, mais on l'exporte. Et c'est vous qui la consommez.
Allez.
La Colombian touch.
Voilà.
Hugo, je te propose d'ouvrir le bal et de nous dire qui est pour toi le français, le meilleur français ou la meilleure française qui représente le mieux le pays.
Alors moi en gros j'ai réfléchi le truc, je t'avoue peut-être mal réfléchi le truc dans le sens où j'ai réfléchi sur la deuxième partie de ta phrase sur qui représente le mieux et j'ai une approche
aussi.
Très rationnelle, peut-être trop rationnelle. Mais après,
ah là
coup,
là,
je
sens qu'on est sur un hors sujet de Tom.
Ouais.
Le premier en 5 podcasts.
Attends, zéro, il va dire Jean Lassalle.
Non, qui a été de dire, je me suis dit, bah, mais en fait pas tant que ça et je vais expliquer pourquoi. Qui a été de dire du coup, pour moi c'est Emmanuel Macron.
Ah, vas-y. J'étais sûr que t'allais dire ça.
Ouais.
Tu peux expliquer qui c'est aux gens qui
alors,
nous
connaissent. Alors, Emmanuel Macron, c'est le président de la République, élu pour un quinquennat de 5 ans. Bon, bref. Et en gros, pour moi, c'est lui tout simplement parce que déjà, d'un point de vue juridique, si on parle de ça, du point de vue de la Constitution et tout, c'est l'un des représentants des Français. Je crois que je sais pas exactement comment c'est défini, mais c'est le représentant de la nation. Et au-delà de ça, forcément, il est élu par la population. Et quand bien même il y a des jeux politiques, et là typiquement on parlait de Marine Le Pen, où du coup Macron gagne aussi parce qu'il est face à Le Pen, et du coup il y a une sorte de choc frontal et tout le monde, la majorité de la population n'est pas 100% derrière Macron. Il en ressort quand même. Donc il y a ce truc de représentation qui est logique, mais au-delà de ça, même en termes de ce qui se fait le mieux, alors je dis pas que Macron c'est ce qui se fait le mieux en France, c'est pas du tout le truc.
C'est l'excellence.
C'est l'excellence. Par contre, je pense qu'il représente quand même une tendance, tu vois, dans la France, à un instant T. Au moment où il est élu, ça représente un peu la vision de la France, la vision des Français sur un truc. Et donc, si on avait élu un mec d'extrême droite ou quelqu'un d'extrême gauche, etc., ça aurait représenté, enfin, ça aurait été. Une volonté de la France qui est différente, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup c'est pas juste une histoire de représentation, pour moi il y a aussi un truc de c'est aussi une vision de la France et donc du coup au-delà de ça c'est ce qu'elle veut porter quoi, et donc ça passe par le président de la République notamment.
En 2017, il y a Vanity Fair qui fait un classement chaque année des personnes françaises les plus influentes dans le monde, et en 2017 la personne numéro 2 c'était Brigitte Macron. Et du coup, j'aimerais te demander, est-ce qu'au final, ce serait pas elle plutôt qu'Emmanuel Macron qu'il faudrait mettre en avant ? Parce qu'à la fois, en étant la compagne de Macron, elle est garante de cette idée de modernité et de nouveau président et tout. Mais est-ce qu'en plus de ça, elle est pas aussi garante de cette image du style à la française, quoi ? Il y a le New York Times qui a consacré une enquête. Et ils ont dit qu'elle serait l'archétype de la WHIP, W-H-I-P, Woman Who Are Hot, Intelligent and In The Prime. En gros, une femme sexy, intelligente et dans la fleur de l'âge. Et est-ce qu'au final, plus que Macron, elle serait pas plus représentative de la France aujourd'hui?
C'est vrai qu'on l'a pas choisi, on l'a pas élu, donc de ce point de vue-là, ça perd ce truc-là. Mais en même temps, il y a ce truc où toujours la première dame a cette dimension de porter aussi la culture. Et c'est pas, du coup, on est plus seulement dans les jeux politiques et d'aller sur l'armée, sur des trucs comme ça. On est sur des trucs vraiment culturels et typiquement pour l'égalité femmes-hommes, pour des trucs comme ça. Et du coup, ça se rapproche un peu de ce qu'on disait au début, ce sur quoi on était fiers, sur nos valeurs, sur nos trucs, qui sont en général portés par la première dame. Donc, ouais, on peut dire que ça s'en rapproche pas mal. Donc peut-être que c'est un peu des deux, quoi.
Mima, t'es d'accord avec Hugo sur Emmanuel Macron?
Oui, en fait j'allais dire que c'est aussi en rejoignant le point de vue de Cyrus, sauf que tu étais en désaccord avec Hugo. mais Macron, il est élu dans une période où il y a de fortes il y a de l'extrémisme un peu partout. Et du coup, par exemple, il est vu comme le seul, les Français, enfin, il représente les Français dans la mesure où c'est les Français qui l'ont élu. Et du coup, ça montre que les Français, ils savent rompre dans cette hégémonie un peu d'extrémisme, quoi. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi. Mais c'est pas le représentant des Français, quoi.
Pour toi, est-ce que Emmanuel Macron, c'est le meilleur Français?
Non.
Alors c'est qui le meilleur Français? Ou la meilleure Française?
En plus, il m'a enlevé 5 euros de ma CAF
les
mois.
Ah, de ton avel.
Mais bon. Oui.
C'est pour ça que t'as pas de fruits, du coup. C'est des 5 euros qui t'ont acheté des fruits.
C'est 5 euros qui t'ont acheté.
Ah oui, c'est ça. C'est pour ça, je cherchais la raison. Non, en fait, c'est, pour moi, les réseaux sociaux ont une part importante dans ma vie. Une part importante, bon. Et je pense que, aussi dans les jeunes, et les jeunes, ils sont le futur du monde, quoi. Donc, j'ai choisi quelqu'un des réseaux sociaux. Et je pense que c'est
Jérôme Jarre. Allez.
Donc voilà, non, je pense qu'il est...
Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jérôme Jarre?
Oui, alors Jérôme Jarre, c'est un Français. Je pense qu'il a fait des études de commerce, mais après
il a fait la même école que moi.
Ah oui?
À Bordeaux. Ouais.
À Bordeaux, ouais.
Incroyable.
Ah, t'as fait des études?
Magnifique, Upercus, colombien, directement.
Et il est à terre.
C'est la revanche sur les clichés colombiens. Ouais. Qui...
C'était beau, le match dans le match, quoi.
Ah là là.
Non, c'est qu'avec amour qu'on fait ce genre de clash.
Ah ouais, c'est magnifique. Bon.
Oui, il a fait. Ouais, donc il a fait des études de commerce. Ici, ça a confirmé. Et je pense qu'il a même abandonné. Il a commencé Vine. Il a été grave populaire sur Vine en faisant des vidéos courtes de 6 secondes. Drôle, quoi.
Alors que personne ne faisait ça sur Vine. Vraiment, c'est,
c'est le mec qui a innové sur le format court.
et en fait, je pense que c'était le Français le plus suivi, oui, bien sûr. Et après, il a commencé à faire d'autres trucs sur les réseaux sociaux, surtout avec l'humour, mais aussi avec un peu d'humanité derrière. Par exemple, il commençait à demander à des gens dans la rue si tu avais quelques secondes pour dire quelque chose à l'humanité en ce moment, tu dirais quoi? Donc les gens, ils disent des trucs super inspirants et tout, ça a grave percé. Et maintenant, il a commencé en 2017, en 2017 à aller en Somalie. En Somalie. Pour essayer d'arrêter la famine là-bas. Ou au moins de diminuer. Et en plus, il est allé chez les Rohingyas, qui sont cette minorité musulmane en Bangladesh.
Et qui est au Bangladesh.
Ouais. Qui ont commencé à être tués.
Birmanie.
En Birmanie ?
Ouais.
Ah, ok. Et donc, c'est pour ça, par exemple, il a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer dessus. Et je pense que c'est quelqu'un qui montre vraiment comme la France peut être... les Français peuvent être aussi humains, quoi.
C'est vrai qu'il a une influence incroyable et en termes d'image, il fait des choses, il est entrepreneur, donc sur le côté modernité et tout, je pense que ça peut s'en rapprocher. Et il a ce truc de défense des valeurs, le côté de défense des valeurs, de liberté, d'égalité, enfin de liberté pas tant que ça, mais surtout d'égalité et tout. Enfin, c'est pas son objectif, quoi.
Et fraternité surtout, je pense.
Et qui est assez important, c'est vrai.
Cyrus, c'est qui pour toi le meilleur Français? Ou la meilleure Française, ou les meilleurs Français, je ne sais
ou
pas.
Ou les meilleurs Français.
Tu vois, si dit les Daft Punk.
Alors en fait, pour moi, dans cette définition de meilleur Français, il y a ce côté toucher un maximum de monde et toucher le peuple du monde. Tu vois. Et genre, pour que pour que la France, entre guillemets, rayonne. Tu vois, genre, c'est ça le principe de quelqu'un, on se dit, ah ouais, je suis fier que cette personne soit française. Un des moyens les plus forts de rayonner dans le monde, c'est la musique. Hein, donc évidemment, j'ai longtemps
hésité. On se rapproche des Daft Punk.
Le son de soleil.
Petit à petit.
J'ai longtemps hésité avec les Daft Punk. Mais je pense qu'en fait, c'est même pas eux le meilleur français. Je pense que le meilleur français, c'est, ça va être, ça va pas être via la musique, ça va être par un truc encore plus populaire que ça, c'est le foot. Et je pense que le meilleur français, c'est Zinedine Zidane, en fait, tout simplement.
Wow.
Non mais tu vois, genre tu vas dans un village paumé au milieu de l'Afrique, tu demandes à quelqu'un genre, est-ce que tu connais Zinedine Zidane? Il te dit oui, tu vois.
Ouais.
Et
tu dis, tu connais Macron? Pas forcément.
Non, bah, c'est clair, c'est clair.
Non mais Zinedine Zidane, c'est le mec est trop fort, tu vois. Alors non seulement il était trop fort en tant que footballeur, dans le sens où, bah, je sais pas, techniquement, stratégiquement, intellectuellement, genre je me souviens, j'avais acheté un magazine quand j'étais petit, c'était un hors-série de Science et Vie Junior, et genre c'était les 50 personnes les plus intelligentes de notre temps et tout. Et dedans, ils avaient mis Zinedine Zidane, tu vois. À côté de Einstein et je sais plus qui, tu vois. En me disant, genre, l'intelligence de jeu qu'il faut avoir, etc. Enfin, le mec, c'est un génie, tu vois. Et au-delà de ça, maintenant qu'il n'est plus joueur et qu'il est entraîneur, le mec, il a entraîné, donc il a fait 3 Ligues des Champions. Et les 3 Ligues des Champions, il les remporte. Enfin, c'est du jamais vu. Le mec est trop fort. Il est trop fort. Et le monde le voit, le monde le reconnaît, le monde respecte Zidane.
Sauf les Barcelonais.
Non, mais il est au-dessus du game, tu vois. Il est au-dessus du game et pas que du game du foot. Il est au-dessus de beaucoup, beaucoup de games, en fait.
Je suis d'accord sur le fait que c'est le mec le plus connu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand à l'étranger, je dis que je viens de France, ils disent, ouais, soit le luxe, enfin, soit les Dior, je sais pas quoi, soit Zidane. Mais en fait, je suis pas sûr que les Français soient aussi fiers de Zidane qu'à l'étranger. Et typiquement, en fait, le fait qu'il ait, il avait parrainé la candidature du Qatar en 2022 pour la Coupe du Monde, une histoire comme ça.
Contre un très gros chèque, ouais.
Tu vois, je suis pas sûr, moi-même, personnellement, j'ai quand même, bon, c'est Zidane, donc voilà. Mais il y a toujours ce truc de, typiquement, l'histoire du Qatar et du parrainage du Qatar, où je suis là un peu en mode, genre, tu peux pas être meilleur représentant de la France
mais en vrai,
et en même temps
si
parrainer
le
Qatar.
Si je peux me permettre, je me demande si c'est pas aussi générationnel. Dans le sens où moi je me souviens avoir vibré devant les matchs de Zidane.
C'est une icône de notre enfance, en
c'est
plus
ça.
C'est un héros.
C'est ça, genre je me souviens, c'était quoi? C'était en 2006, France-Brésil, donc pas
j'étais
la finale.
J'étais né, hein,
pas,
là, de...
donc,
pas non plus.
On rappelle qu'Hugo est plutôt jeune.
Ouais, donc c'était pas la finale.
Né
en 2007.
Tu te souviens de ce match, France-Brésil, mais pas la finale.
Bien sûr,
en 2006. Bah,
l'apothéose de Zizou.
Je sais pas pourquoi je clash Zidane, mais j'ai besoin de...
Clash Zidane, vas-y.
Mais
on va l'appeler après pour qu'il réponde.
2006, la finale. Le coup de boule et tout, en termes d'image, quand bien même il y aurait eu des insultes
mais
ou des trucs
c'est
derrière.
C'est ça, mon gars, la fierté française, mon gars.
Est-ce que vraiment on peut dire que c'est le meilleur représentant, le meilleur, j'oublie toujours le terme que vous utilisez, mais.
Ça l'humanise. C'est, voilà, c'est à l'image. C'est peut-être ça. Moi, justement, j'allais dire à Cyrus que.
Mais les valeurs.
Tom rentre dans le débat. Ton meilleur français, c'est qui?
Alors attends,
allez, dis-le.
Avant ça, je suis ni. J'ai changé d'avis depuis du moment où on en a parlé. Donc,
c'est plus Zidane?
Si, c'est. Non, alors je pense pourquoi c'est pas Zidane. Au début, j'aurais dit Zidane également, parce que je suis d'accord avec toi qu'en termes de rayonnement, c'est incroyable. Le sport et le football, je pense que c'est le chose qui unit le plus de gens et qui est le plus populaire au monde. Et de prendre, bon, c'est un peu chauvin, mais de prendre le meilleur dans ce domaine-là, prendre le meilleur du meilleur domaine, effectivement, on est sur un meilleur au carré et c'est ouf. Après, la différence avec ce qu'a dit Mima et ce que je trouve intéressant avec, par exemple, Jérôme Jarre, c'est que d'une certaine manière, il interprète, Jérôme Jarre, des valeurs de la France. Et je trouve que Zizou, c'est une star, enfin moi c'est un héros, etc. Mais je trouve qu'on reconnaît pas forcément une touche française dans ce qu'il est, dans comment il agit ou dans comment il prend la parole. Ok, le mec est une brute, mais est-ce qu'il représente la France?
Et Mbappé alors dans ce cas-là Mbappé. T'sais, il donne la moitié, enfin il donne tout ce qu'il a gagné au mondial.
Mbappé, mais
comme tous les joueurs anglais. Hein.
Il est encore trop jeune.
Oui, est-ce que c'est un podcast sur le meilleur anglais? Je ne pense pas, Hugo.
Mais du coup, moi donc si je veux rentrer dans le débat, et c'est vrai que au début, j'hésitais comme toi entre les Daft Punk et Zidane parce que la musique et le sport sont les deux disciplines les plus populaires et c'est là où effectivement on a marqué des points. Je pense que suite à ce qu'on a dit sur représenter les valeurs modernes de la France, avoir une bonne image et tout, moi j'ai envie de dire Thomas Pesquet.
Ouais.
Mais pourquoi? Parce que moi je le suis pas du tout et du coup je.
Bah.
Alors, on est d'accord, c'est le mec qui fait les brioches là.
Exactement. Alors, je me rends pas compte, effectivement, toujours pareil, en tant que Français, de son rayonnement international, mais je trouve qu'il représente des choses qui sont. Déjà, sa personnalité est ouf. Je trouve qu'il est quand même assez humble. Que, donc, Thomas Pesquet, on rappelle qui c'est l'astronaute français qui est parti pendant un petit moment là en mission dans l'espace. Je vais dire que des bêtises sur ces phrases qui arrivent, je le sens. Qui est passé dans le programme spatial international et qui est resté autour de la Terre pendant un petit moment.
C'était le truc le plus vague du monde.
Il était dans l'espace. Globalement, il était dans l'espace.
Je suis à fond de sa mission et tout. Je suis à chier. J'ai plus en tête tout ça. Mais en gros, il est parti pendant très longtemps dans l'espace. Et ce qui était intéressant, c'est que sa gestion des réseaux sociaux, où du coup, il a réussi à communiquer très longuement sur son voyage et sur ses expériences de voyage. Et il a vraiment vulgarisé quelque chose qui pouvait être très sacralisé, etc. Et je trouve qu'avoir cette touche un petit peu d'humour, un petit peu de proximité et tout ça, bah, je trouve que ça défonce, que ça rend quelque chose d'inatteignable, accessible, le voyage dans l'espace. Et je trouve qu'il y a ce côté justement un peu français au niveau de l'humour, du second degré et de l'autodérision qui était représentatif. Et en plus de ça, je trouve que c'est une brute intellectuelle et même physique. Enfin, si on devait faire la guerre, moi je veux que ce soit lui qu'on clone et qu'on mette 50 fois pour faire la guerre, quoi. Tu vois, je trouve que le mec est une brute. Et en plus de ça, les combats qu'il mène maintenant qu'il est redescendu de son voyage sont des trucs super humains, etc. Et je trouve que, ouais, c'est une bonne personne. Après, je me rends pas compte de sa force de frappe et sa caisse de résonance dans le monde.
Justement, c'est pour ça, moi ça soulève un peu une question, c'est que je pense qu'il est très connu en France, mais il est inconnu à l'étranger parce que des gens, oui, qui vont dans l'espace, il y en a plusieurs, bizarrement, et du coup il y en a, enfin chaque pays a un peu son Thomas Pesquet, enfin pas chaque pays mais beaucoup de pays ont leur Thomas Pesquet.
La Colombie ils ont un Thomas Pesquet.
Est-ce qu'ils sont allés dans l'espace?
On a un neurologue qui est connu.
Ah bon,
ça,
super,
dont je suis fier.
Allez,
cool. Non mais marche. Du coup c'est vrai que, parce que là on disait, ouais, Jérôme Jarre c'est cool, il a une grosse influence, on disait Zidane c'est cool, partout dans le monde, ouais, les gens connaissent Zidane. Macron, moi je réalise au fur et à mesure que de toute façon qu'il est un peu hors sujet effectivement par rapport à notre question, et je pense que je vais voter pour un des vôtres, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que la personne qu'on cherche, c'est un mec qui est connu et qui a déjà une influence, ou est-ce que c'est juste une personne? Et pour prolonger, est-ce que finalement Arnaud Beltrame ou des gens comme ça, des sortes de héros français, ou même des gens qui sont au Panthéon, enfin je sais pas, qui sont pas forcément ultra connus partout dans le monde, pourraient être les bons pour le podcast, quoi.
Pour moi, ce critère d'influence et ce critère de toucher des gens, et effectivement, il est important à prendre en compte, dans la mesure où, bah, déjà, si on ne prenait pas en compte, il y aurait effectivement beaucoup trop de candidats pour déterminer le meilleur français.
Un peu relou de faire un casting.
Et en plus, si l'idée, c'est vraiment de déterminer genre, qui est le meilleur représentant de la France, quand on dit représentant, c'est qu'il y a quelqu'un qui se fait représenter la chose, donc il y a un spectateur, en fait, quelque part. Pour moi, c'est implicite qu'il y faut une forme d'audience. Tu vois ce que je veux dire?
Mais donc, Thomas l'a pas à l'étranger. Thomas Pesquet l'a pas.
Je dis
Thomas comme si je le connaissais.
Oui,
mais
oui. Je sais pas. C'est pour ça que, ouais, justement, ouais, c'est ce que je disais en préambule. Je me rends pas compte. Mima, je sais pas si par exemple en Colombie, est-ce que Thomas Pesquet est connu?
Ouais, je pense pas en vrai.
C'est bien dommage. C'est qui justement, Mima, petite parenthèse,
oui,
le meilleur Colombien ou la meilleure Colombienne?
Oh, bah j'ai envie de dire J Balvin. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est comme si eux,
il précise qui c'est, parce que
ouais,
je sais
on sait pas trop qui c'est.
Ah oui, c'est un chanteur. Un chanteur de reggaeton colombien qui fait beaucoup de musique. Il a fait Mi Gente avec Willy William, un peu de français. Il fait du portugais aussi. Enfin, il fait plein
c'est
de musique.
C'est apparemment l'artiste, si je dis pas de conneries, le plus streamé sur Spotify
en ce moment. Oui.
Du monde entier.
Ok. Ouais.
Et c'est parce
pas en Colombie. Ça, c'est un peu pété.
Et c'est parce qu'il diversifie beaucoup ses langues dans ses musiques et tout. Et je pense qu'il est vraiment le meilleur représentant, parce que pour moi aussi la musique, ça a une part importante dans la vie des gens, et les gens ils l'écoutent beaucoup, et il est grave, je sais pas, il représente cette innovation musicale, parce qu'avant le reggaeton ça parlait que de cul, donc maintenant ça parle plus, bon c'est encore superficiel, mais ça parle de trucs plus sympas, quoi. Ouais.
Le domaine artistique, on en a peu parlé, un mec comme JR par exemple.
Ah,
qui est un street artiste, ouais, qui a fait beaucoup de collages, sa patte,
mmh, avec Jérôme, il a fait notamment un truc avec Jérôme Jarre,
exactement,
qui était venu.
Sa patte, c'est de faire des portraits en noir et blanc géants, très très grands, mmh, d'humains, et de les coller dans des endroits du monde assez particuliers.
Mmh. En vrai, il est grave connu.
C'est pas mal, et il y a ce truc déjà des valeurs qu'on a bien évoqué aujourd'hui, et de l'audience, et de à l'international notamment, mmh, et de l'artistique. Donc franchement, ouais.
Ouais.
Alors, je vous propose de garder tout ça en tête quelques minutes, le temps de faire un tout petit quiz, et après on fait le vote final.
Juste avant le vote final, on peut.
On n'est pas encore au vote final.
C'est... Ok, donc après on pourra défendre les choses.
Voilà. On fait un petit quiz.
Ok, alors je mets juste une graine. Je peux juste mettre une graine dans la tête des gens ou pas?
Mets ta graine.
Ok, je mets ma graine. C'est juste que si vous comparez juste JR en termes d'influence artistique et tout, comparez ça au Daft Punk. Voilà, vas-y.
Non mais vraiment.
On débattra après. Un petit vrai ou faux sur la France. Je vais vous donner des informations sur la France, des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire, etc. Et vous allez me dire si selon vous c'est vrai ou c'est faux.
C'est vrai, tu vas le dire. On va vraiment faire ça.
Alors, aussi fou que cela puisse paraître, en France, on peut se marier avec une personne morte.
C'est vrai.
Faux.
C'est vrai.
C'est vrai.
Quoi ?
Je l'ai fait.
Si les procédures du mariage avaient commencé avant le décès de la personne, il faut faire une demande au président en personne. Et en expliquant pourquoi on a envie de le faire, et c'était notamment quelque chose qui se faisait beaucoup plus au temps des guerres, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Voilà, on peut se marier avec des personnes mortes. Mmh. Aussi fou que cela puisse paraître, en France, on peut se marier avec une personne moche.
Bien sûr.
C'est vrai, malheureusement.
Est-ce qu'on peut se marier avec des personnes qui sont mortes à l'intérieur?
Malheureusement, je pense que oui aussi. Bah, Laurent Wauquiez s'est marié, par exemple. Du coup, ça veut dire oui. Le règne le plus court d'un Français est de 20 minutes.
C'est vrai, ça.
Ouais.
C'est vrai, il s'agit du règne de Charles XIX, puisqu'il a dû abdiquer 20 minutes après son sacre pour laisser la place à son neveu Henri d'Artois sous la pression de son père.
Putain, c'est dommage qu'il ait pas tenu 19 minutes. Ouais, ça aurait été parfait, quoi. Charles XIX, oui. 19 minutes, bim. Dommage.
Le coït le plus court d'un Français est de 20 minutes.
Non.
C'est faux, bien sûr. On sait tous qu'un rapport sexuel de 20 minutes, c'est un exploit inatteignable. Voir une légende urbaine. La France couvre plus de fuseaux horaires que la Russie.
Faux. Vrai, avec les dom-toms. Bim.
Ah,
allez.
Bonne réponse.
Vous êtes colonial. Colonial.
On en couvre 12 alors que la Russie n'en couvre que 9. En France, on peut inscrire son enfant à un concours de beauté.
Oui.
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 C'est faux et c'est même interdit par la loi.
Ah, oui.
Depuis récemment alors.
C'est interdit depuis 2-3 ans, je crois que c'est passé. Ah. Jusqu'à 13 ans, c'est interdit. Il y a des dérogations pour 13 à 16 ans. Mais en dessous de 13 ans, les concours de beauté pour enfants sont interdits. Et puis, sérieusement, qui trouve ça beau un enfant? En France, on peut demander une médaille si on est un bon parent.
Ah ouais?
Ah, je te demande si c'est vrai ou si c'est faux.
Ah, j'aimerais tellement que ce soit vrai.
J'allais dire que c'est faux, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui permet de le faire.
Vrai.
C'est vrai, ça s'appelle la médaille de la famille.
C'est trop bien.
Alors, je cite le site du gouvernement. La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants afin de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Est-ce que les parents des Daft Punk ont cette médaille?
Ils le méritent, ouais.
Faut faire beaucoup d'enfants.
Alors, il y a plusieurs critères. Il y a effectivement le fait de faire beaucoup d'enfants. Il y a le critère d'être un parent veuf et de s'occuper de ses enfants. D'accord. Il y a le critère d'être orphelin et de s'occuper de ses frères et sœurs. Il y a plusieurs critères
listés. Idéalement, en gros, tu te maries avec quelqu'un qui est mort.
Tu fais des combos.
Tu fais des enfants avec.
Exactement.
Et t'en fais une quinzaine, quoi.
Et à 13 ans, tu les fais gagner des concours de beauté.
Parfait.
En France, on peut demander une médaille si on est un chauffeur de taxi honnête ou un serveur de café poli.
J'ai envie de dire vrai, pareil, ça doit bien exister.
C'est un exploit.
C'est faux, malheureusement, mais il serait peut-être temps d'y penser.
Donc, ne défoncez pas Tom. Allez défoncer Tom sur son compte Twitter. C'est @tom_aguilar. Hein. N'hésitez pas si vous êtes serveur ou chauffeur.
Je rappelle que je pourrais couper ce que je veux de cet épisode. Fini la rigolade. C'est les deux dernières minutes de l'épisode. Il faut qu'on se mette d'accord sur le meilleur français ou la meilleure française. Cyrus, quel est ton choix définitif?
Je pense que c'est Zinedine Zidane, pour toutes les raisons que j'ai dit plus tôt.
Pas les Daft Punk, définitivement.
Bah, les Daft Punk, ils sont incroyables. Maintenant, entre les Daft et Zinedine, Zinedine Zidane a eu un tel impact sur les classes populaires et il est tellement plus connu dans le monde entier, même les parties pauvres du monde, tu vois. Là où les Daft, peut-être, touchent pas forcément les gens, tu vois. Donc... j'ai envie de te dire Zinedine Zidane, parce que c'est un génie. C'est un génie, tout simplement.
Mima, tu restes sur Jérôme Jarre ou tu changes?
Je reste sur lui. Il est peut-être avec plein d'influenceurs qui sont dans d'autres pays, et du coup, il influence dans leur propre pays, et il est un peu...
Réseau.
Réseau.
Il a un peu un impact mondial, quoi.
Influence Network. Ouais.
Moi, alors, évidemment, je vire Macron parce que, avec le recul, c'était effectivement un petit hors sujet. Enfin,
c'est pas totalement hors sujet,
mais le fait, non, mais c'est aussi que le fait qu'il soit pas. En fait, il est au moment où il est élu, il a peut-être un petit peu de d'élan populaire et de popularité. Mais aujourd'hui, on voit très bien que c'est pas le cas.
Non,
mais
c'est vrai. Si cette émission avait lieu il y a un an, effectivement, moi,
j'avoue,
ça aurait été plus.
J'avoue, j'ai pensé à Macron, tu vois, de la même manière que genre quand tu dis Justin Trudeau, il a l'air tellement stylé. Tu dis ouais, t'es canadien, t'es fier qu'il soit canadien, tu vois.
Mais Macron, pour moi, il a plus cette image, tu vois.
Et Obama, c'était pareil, tu vois. Genre, tu disais putain, c'est tellement le mec le plus stylé, tu vois. Ouais. Et je pense que dans plein de pays du monde, Macron il gère assez bien sa com pour avoir cette image-là, tu vois.
Bah, ouais, ouais. Ouais, je tiens à dire que c'était avant, et là, maintenant, c'est plus le cas.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Et du coup, ouais, pour moi, clairement pas Macron, il est beaucoup trop, pas ambigu, j'ai pas le bon mot, mais controversé pour l'être, ça peut pas être quelqu'un comme ça. Oui. Et du coup, si jamais on choisit, du coup, entre ceux qui restent, pour moi, en fait, ça peut pas être les Daft Punk, dans le sens où les Daft Punk, et tu l'as dit, en fait, d'ailleurs, ont pas eu une influence assez importante auprès de tout le monde, en fait. Quand tu dis ça a changé, ça a marqué des gens et tout, probablement, mais pas autant. Et du coup, pas autant que Jérôme Jarre, par exemple, qui pour moi, c'est un impact en termes de vision et en termes d'image qu'il envoie et de positivité qu'il envoie. Et au-delà de ça, c'est un impact aussi très concret sur le terrain.
Je suis pas d'accord, mon gars, attends, les Daft Punk, ok, attends.
Ok, alors.
Pas autant d'impact que Jérôme Jarre. Okay. Les Daft Punk,
mais
tu vas voir ma mère, elle connaît Daft Punk, pas Jérôme Jarre.
Mais ils sont là depuis 20 ans en plus en termes de temps.
Les Daft Punk, mais grave.
Est-ce que je peux compléter? Certes, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on parle d'un impact. Enfin, typiquement, ta mère connaît le Daft Punk, mais est-ce que les Daft Punk ont eu un impact sur elle? Pas forcément.
Indirectement, l'effet papillon.
Tu vois ce que je veux dire?
The Butterfly
Effect. Et en vrai, avec Jérôme Jarre, il y a ce truc d'impact en termes de positivité sur ce qu'il veut transmettre. Alors, mais même avant la Love Army, tu vois, sur ses vines, ces trucs un peu de positivité, de bonne humeur. Et impact aussi très concret, évidemment, du point de vue humanitaire.
Excuse-moi, Hugo.
Laisse-le finir.
Je complète en disant aussi que j'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un de jeune qui soit sur ce truc. En gros, Zidane, typiquement, c'est une autre génération, et il est encore entraîneur et tout, donc voilà, mais c'est une autre génération. J'aime bien l'idée d'avoir un jeune qui implique du coup ce truc de modernité, ce truc d'entrepreneuriat aussi qui me fait kiffer.
Alors déjà, plusieurs choses, si je peux me permettre d'intervenir maintenant, Tom. Les Daft Punk, ils n'ont pas d'âge déjà, c'est des robots, okay. Qu'on soit très clair, okay, ils sont immortels, les mecs. Ensuite, tu parles de positivité, etc., machin, mec, la musique des Daft, c'est ça, quoi. C'est hyper positif. C'est que des messages d'amour. Mec, c'est que des messages d'amour.
Mais
c'est...
est-ce que l'impact final est réellement le cas?
Lose yourself to dance.
Mais oui, je sais, mais ce que je veux dire,
lose
c'est que.
Lose yourself to dance.
Il n'y a pas besoin de faire un truc de. Enfin, comment dire? On a beaucoup de gens une volonté de positivité, mais quel est l'impact réel derrière? Quel est l'impact réel sur les gens? Et pour moi, je pense qu'en l'occurrence.
Mec, c'est hyper discutable. J'apprécie énormément Jérôme, hein, mais c'est hyper discutable. Plein de ses actions. Genre, tu vois, genre, ce qu'il a fait en Somalie contre la famine, etc., machin, c'était hyper controversé. C'est à prendre en compte. Oublie les Daft Punk. Zidane. Moi, j'ai dit Zidane, hein, j'ai
mais
pas dit Daft Punk.
Même Zidane a eu... Il y a eu le même débat sur l'équipe de France de foot la semaine dernière. Oui, il y a un moment de joie, mais sur le long terme, ça rend pas les gens, ça change pas la vie des gens. Et c'est triste de le dire, mais ça change pas la vie des gens. Et je pense qu'en l'occurrence... Tu vois, moi je pense que le temps d'un week-end ou le temps même.
Mec, ça donne des rêves, ça donne des rêves à des générations. Alors,
jamais tu verras autant de monde heureux dans la rue parce que Jérôme Jarre, mais peut-être malheureusement au final,
bien
mais
sûr.
A sauvé des vies au Bangladesh. Enfin,
évidemment,
mais ceux
au Bangladesh par contre sont heureux
bien
d'avoir
sûr.
L'aide. Et ce que je veux dire, c'est que le foot a un impact qui est plus court terme et qui, certes, ça peut faire rêver, mais ça change. C'est triste, mais ça change pas la vie des gens en fait.
Je suis pas d'accord avec ça, mec.
Pas d'accord non plus.
Je suis pas d'accord. Franchement, regarde les gamins qui jouent avec des ballons, etc.
Ouais, mais même tout le monde.
Oui, même tout le monde. Mais je veux dire.
Moi, je sais qu'en tant que fan de football, vraiment, tu vois, et pourtant je joue pas au foot, mais je sais que Zidane, ça m'a enchanté. Et je me dis, enfin, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis motivé pour faire des trucs. Bah, j'ai maté des compiles de Zizou, quoi, tu vois.
Okay.
C'est con, mais genre, je me dis, putain, il est inspirant, quoi.
Non, mais puis franchement, je pense qu'il a donné envie à plein de gens de jouer au foot, de jouer avec des potes, de se faire des équipes, etc. Et genre, c'est ça qui rend heureux les gens aussi, tu vois. C'est hyper simple, mais genre, prendre un ballon et se taper un match, franchement, mec, c'est du bonheur simple, tu vois.
C'est vrai.
C'est ce que tu disais. Zidane, il peut, genre, faire que des gens soient heureux, parce qu'ils vont avoir envie de faire du foot et tout, mais ils n'ont pas forcément des valeurs.
Et la France, c'est les valeurs.
Oui, la France, c'est les valeurs.
Enfin,
oui.
Zidane aussi, le parrain de l'association ELA, qui est une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Non, mais je veux dire, il y a aussi.
C'est pas autant mis en valeur
que ce que fait Jérôme Jarre, mais je pense qu'avec son argent, Zidane a aussi fait des choses.
Et il a fait plein de pubs Grand Optical pour aider les gens à mieux voir. Moi, j'ai acheté des lunettes grâce à Zidane.
Et est-ce que tous les gens qui sont atteints de calvitie trouvent pas en lui un modèle pour se sentir bien dans leur peau?
Mbappé, il disait dans une interview qu'il avait vu la calvitie de Zidane et qu'il voulait reproduire le même truc.
C'est vrai, quand il était petit.
Quand il était petit, et genre on lui a dit, mais mec, c'est juste qu'il perd ses cheveux. Il avait, ah ouais. Je trouve cette anecdote est trop marrante.
Donc du coup, plutôt Jérôme.
Plutôt Jérôme Jarre, mais très compliqué de choisir, honnêtement.
Bien sûr. Mais ok, donc on a deux Jérôme, on a un Zizou.
Donc là, il faut une alliance entre vous deux pour
Attends, attends, on a un Jérôme, un Zizou, un c'est compliqué, Jarre. C'est compliqué, Jarre.
Je vais trancher, hein, du coup, parce que je vais enlever cette idée de Thomas Pesquet, même si je pense que c'est le meilleur d'entre nous d'un point de vue, c'est la meilleure, le meilleur prototype d'un humain français qui a été créé. Mais que, effectivement, en termes d'influence et de répercussion, mais peut-être qu'il n'est pas aussi fort que les autres personnes qu'on a citées. Moi, je vais être obligé de citer Zinedine Zidane parmi
allez,
les restants. Je suis désolé.
Match nul.
On est sur un match nul. Mais c'est juste que voilà.
Non,
je pense
parce qu'en fait, on a créé ce podcast, Tom. Donc, pas du tout.
Non, je pense que on est
c'est
sur
clairement
le point match
Zinedine
nul de
Zidane
du meilleur podcast. Mais parce que voilà, les raisons qu'a dit Cyrus, effectivement, je pense que si on va voir n'importe quelle personne dans le monde, il aura beaucoup plus de chances de connaître Zidane que n'importe quel Français. Que ce sera pour des raisons qui seront positives, parce que c'est des valeurs de sport, de plaisir et de dépassement de soi. Je pense qu'il a un rayonnement qui est fou. Et en plus, il a masterisé l'art dans lequel il évolue. Après, effectivement, Jérôme Jarre, comme l'a dit Mima, il y a une utilisation des réseaux sociaux qui est hyper intelligente, alors que c'est un truc qu'on pointe du doigt aujourd'hui dans la société, qui est pas forcément bien utilisé. Mais la manière dont lui s'en sert, c'est hyper bien, et il fait des choses qui ont une répercussion positive très forte aussi. Donc, effectivement, c'est quelqu'un de très bien.
Ouais.
Mais voilà, je vais voter quand même Zinedine Zidane.
Et il faut peut-être juste préciser que, en fait, on a pris que des gens actuels, mais c'était aussi un peu l'idée. Je sais pas si on l'a dit en fait dans.
Non,
dans
on l'a pas dit pour des contemporains.
Parce que, sinon, les gens vont dire, ouais, mais les. Enfin, je sais pas.
Victor Hugo. Oui,
voilà, Victor Hugo.
Simone de Beauvoir, clairement.
Ouais, Simone de Beauvoir, Marie Curie. Voilà.
Enfin. Non, on voulait se limiter à des gens en vie. Désolé les morts.
Est-ce que on peut se marier avec vous, mais.
Alors, est-ce que juste parce que je suis la seule représentante féminine ici.
Ouais.
On n'a pas parlé de française.
C'est vrai.
Juste pour clôturer, est-ce qu'il n'y aurait pas une française qui serait bien vue à l'extérieur?
C'est exactement ce que je me disais au moment où genre, je me disais, ah, c'est la fin du débat et genre, on a tellement parlé peu de femmes.
Ouais.
Bah, j'ai proposé Christine the Queen à un moment où vous m'avez.
Il y avait Brigitte Macron.
Sachant qu'en stock, j'avais aussi qui sont peut-être un peu moins connus mais qui ont une caisse de résonance assez ouf. Denise Gamze Erguven, j'ai très peur de mal prononcer ce mot, mais c'est la réalisatrice de Mustang. Il y avait Simone Veil aussi, du coup, qui aurait pu être citée si on avait fait ce podcast quelques mois plus tôt, malheureusement. Je sens qu'il parlait d'Isabelle Cocher ou Cocher, je sais pas comment ça se prononce, mais qui est la seule femme patronne du CAC 40, c'est la PDG de Engie, et qui est aussi mère de 5 enfants.
Ah, wow. Du coup, elle coche toutes les cases là.
Donc elle a beaucoup de cases, quoi.
Machine.
Malheureusement, elle est moins connue.
Il y avait un jeu de mots qui est pas, je crois qu'il est passé inaperçu. Cocher, mais.
Ah,
c'est pas, je suis obligé de le préciser, mais ça aurait pu passer comme ça. Des gens auraient écouté, on fait, ah, il y a peut-être un jeu de mots là. Et on n'a pas parlé d'acteur au final.
Non.
Ouais.
Non, mais bon, vrai. Ça mais... fait déjà 3 heures d'émission. Donc malheureusement, il faut bien finir à un moment. Donc voilà, le premier match nul de l'histoire du meilleur podcast.
Non, moi je suis
Omar,
mec,
mais attendez,
mec, je suis désolé. Attends, non, mais je suis désolé.
Comment ça balance les
mecs, je suis désolé. Genre, moi je considère qu'on a inventé ce podcast. S'il y a un match nul, on gagne. C'est Zinedine Zidane, il n'y a pas de débat.
Non, et même moi, je tiens à dire que j'hésitais beaucoup, effectivement, contrairement peut-être à vous trois, à chacun sur vos arguments. Donc on peut peut-être plus pencher vers Zidane un petit peu.
Allez,
moi, même si
merci,
moi,
merci.
Je maintiens que j'ai voté Jérôme Jarre. Mais ça se joue à très peu de pourcentage. Donc,
okay. Donc c'est l'applaudissement final de la victoire de Zizou.
Allez, Zizou.
Non, je le somme. Les gens, ils seront avec moi, je suis sûre.
Merci beaucoup de votre venue et d'avoir encore une fois nous avoir aidé à répondre à une question que tout le monde se posait.
Évidemment.
Toujours.
Hugo, Mima, on vous retrouve où? Où c'est qu'on écoute le podcast Fromage? Et déjà, de quoi ça parle Fromage? On n'en a pas parlé.
Eh bah de rien. C'est bien le sale truc, ça ne parle de rien.
De rien.
De tout et de rien. Non, mais on parle un peu d'actu, on parle un peu d'actualité, de culture, de voyage, de tout ça, mais il n'y a pas d'angle précis sur chaque épisode. C'est un peu l'originalité du truc. Et du coup, sur le podcast Fromage, simplement, qui s'appelle Fromage, on sait pas pourquoi, mais voilà.
SoundCloud,
j'ai bien vendu, hein, vraiment, là, c'est bien vendu.
SoundCloud, Apple
Podcast, enfin tous les trucs de podcast, quoi.
Ouais. Ok. Et on te suit où, Hugo, à part sur Fromage ?
Et sur Hugo Décrypte, du coup, sur Instagram, sur YouTube et sur Hugo Traverse, c'est mon nom, sur Twitter.
Et Mima, où est-ce qu'on peut te suivre ?
Bah, si vous parlez un peu d'espagnol, vous tapez Mima la Prima sur Instagram.
Avec l'accent, tapez-le ouais. Avec l'accent vraiment.
Mima la Prima. Et sinon sur YouTube, voilà. Je vais commencer à publier des vidéos.
Ok, on suivra ça avec intérêt, même si j'avoue, je parle pas, j'ai pas la chance de parler espagnol.
Sinon, ça va pas la peine, ce sera trop malaise.
Et nous, Cyrus, bon, surtout dans un petit moment, parce que ça va être les vacances.
Ouais, mon petit Tom.
Donc, une petite pause de quelques semaines du meilleur podcast. Ouais. On se retrouve à la rentrée.
Bah, pause d'un mois même. Parce que c'est tout le mois d'août, en fait.
Ce sera les meilleures vacances.
On l'espère.
Bah, non, parce que les meilleures vacances auraient été celles avec le meilleur podcast.
Oh. Ouais.
Mais bon, on se retrouve dans un mois avec plein d'émissions,
plein d'invités, du lourd,
du très très lourd,
du sale.
N'hésitez pas, on vous le redit à chaque fois, mais n'hésitez pas pendant cette période estivale à nous faire part de vos retours pour améliorer le podcast, des trucs que vous trouvez cool, pas cool, des idées. Enfin voilà, on est vraiment preneurs pour améliorer ce projet-là et le faire avec vous.
Exact, on réfléchit à de nouvelles rubriques aussi, on est en discussion, on est hyper ouvert sur notre Instagram, si c'est plus simple
Instagram.
Pour vous de... Sorry, ok.
Instagram.
pour si c'est plus simple pour vous de communiquer, nous envoyer des messages, etc. N'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires sur le podcast avec un petit 5 étoiles si ça vous a plu, voilà, ce genre de choses.
Je crois qu'on le redit dans l'outro, ça.
Ah oui, c'est possible.
N'hésitez pas à mettre 5 étoiles du coup sur le podcast aussi, si ça vous a plu. Et 5 étoiles aussi.
Merci.
C'est
Hugo.
Combien ? Je me souviens plus, il faut mettre 4 ou 5 étoiles déjà.
Je pense qu'il faut mettre 5 étoiles.
5 étoiles, c'est ça.
C'est ça.
6 étoiles.
Ok, bah écoutez.
Il y a combien d'étoiles sur le maillot de l'équipe de France ?
5-3.
Ouais, c'est ça.
merci à tous. On se quitte en chanson comme d'habitude.
Simply the best. Tain, 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 tain.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.